Bonjour à chacun, bienvenue aux plus jeunes, aux plus anciens. J'espère que vous êtes installés confortablement, que vous avez les petits coussins dont vous avez besoin. On est rassemblés ici, bien en sécurité, ou peut-être derrière un écran depuis ailleurs. Et si nous sommes ici ensemble, des fois c'est peut-être par obligation, ou curiosité, par habitude, ou pour avoir bonne conscience, parce qu'on a des questions, des doutes. Mais je le souhaite surtout parce qu'on aime Dieu. Le Dieu qu'on découvre dans la Bible, qui se révèle tout au travers de l'histoire de l'humanité. On en parlera. À un peuple en particulier pour commencer, et qui se fait Dieu et sauveur personnel pour tous les peuples et pour nous en la personne de Jésus. Un Dieu qui se manifeste aujourd'hui encore. Alors quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, Dieu est intervenu dans nos vies. Même si des fois on ne s'en rend pas compte, ou alors on s'en rend compte seulement bien plus tard. Ne serait-ce que le fait d'être là ce matin. Et le simple fait justement d'être là, présent ce matin, nous permet de rendre témoignage de sa présence, de son action dans nos vies. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble, pas juste chacun pour soi, mais ensemble, en Église. Alors ce Dieu, il peut sembler lointain, de temps en temps distant, peut-être même complètement absent. Et pourtant, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui me permet d'être là ce matin. C'est lui qui nous permet, tous ensemble, de former son Église. Même si, bien souvent, elle est maladroite, cette Église, ou chacun de nous. Et peut-être qu'on est aussi un peu à côté de la plaque. Eh bien, on essaye. Et à ce propos, voici justement alors quelques annonces, on va commencer avec ça, concernant les activités, nos témoignages en interne, ou alors tournés vers l'extérieur. Donc vous avez déjà vu certaines choses, je rappelle juste quelques points. Pour cette semaine, mardi 21, à 20h15, la prière communautaire, chacun est le bienvenu. Mercredi soir, dès 19h, le parcours Alpha Live, ça se continue de mercredi en mercredi. Et puis, un petit peu en dehors de ces activités, le vendredi 24, toute la journée, il y a Ethnopoli. Alors ceux qui ne sont pas de Mérins ou qui ne connaissent pas bien les activités de l'église, vous ne connaissez peut-être pas. Ce vendredi, les enfants de Mérins de 10 à 11 ans, c'est les 7P, ils parcourent la ville en groupe toute la journée à la découverte de la diversité culturelle. Donc ils sont en groupe avec des moniteurs qui les accompagnent et ils vont visiter, il y a 70 postes à visiter, ils ont une carte, ils choisissent où ils vont. Et il y a des associations, des choses en lien avec la commune, peut-être des particuliers qui offrent des postes. Et ici à l'église, il y a une activité autour des langues, de la Bible et de la traduction, et du Laos, et Sylvain qui s'en occupe. Par contre, il y aurait quand même besoin de deux personnes pour aider au long de la journée, une qui serait là le matin aussi pour aider, et une plutôt pour l'après-midi, aider à l'organisation, accueillir les groupes, etc. Donc si vous êtes disponible, eh ben, n'hésitez pas à passer voir Sylvain, juste là derrière le piano, ou tout à l'heure peut-être. Et puis, le thème c'est la Bible et la traduction, et du coup si vous avez aussi une Bible, pas une Bible qui traîne, mais une Bible qui pourrait être intéressante à montrer, c'est-à-dire peut-être pas en français, en anglais ou en espagnol, mais peut-être dans une langue un peu plus particulière, avec d'autres caractères, si vous avez une Bible comme ça et que vous pouvez la mettre à disposition, ça peut être intéressant de montrer ça aux enfants qui passeront ici. Voilà. Ah oui, et une autre annonce, une naissance. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré de qui il s'agit. Les parents, c'est Johan et François. Et il s'agit... Ah, on ne savait pas. Hein. Ben, c'est une fille. C'est Rosie qui est arrivée mardi. Voilà, alors, félicitations aux parents, aux grandes sœurs, à toute la famille. Je ne crois pas qu'ils soient là ce matin. Mais, voilà, on se réjouit pour eux. Alors, pour la suite de ce culte, on est quelques semaines après Pâques. 7 semaines, en fait. Ou 50 jours, suivant comment on compte. Et à Pâques, Jésus, il est mort. Jésus, il est ressuscité. Il est apparu à des disciples, à différentes reprises, dans différents contextes. Et il dit... Vous, vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et après ça, il est monté au ciel. Il a disparu de nouveau au travers des nuages. C'était l'ascension. Alors, Pentecôte, un jour de congé de plus dans une société post-chrétienne. Mais pour nous, on parle du Père, on parle du Fils, du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, sa présence, comme un souffle, comme une présence, comme une force. Difficile à définir, à maîtriser cet Esprit, mais qui agit et qui produit différents fruits, différents résultats. Dieu qui vient se révéler à chacun de nous, en chacun de nous, Dieu qui vient se manifester dans le cœur des croyants, qui donne vie à l'Église et qui lui permet de sortir de la chambre dans laquelle, à ce moment-là, les croyants se trouvaient et d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle au monde entier. Alors je vous invite à prier. Seigneur, tu es bon et tes plans sont parfaits. Merci pour ta patience envers nous, pour ta fidélité à tes engagements. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton esprit qui agit dans nos vies et qui agit dans l'Église. Nous nous remettons entre tes mains, que tu bénisses ce temps de culte, que tu renouvelles nos forces, que tu renouvelles notre engagement à ta suite. Alors que tu viennes parler à nos cœurs, nous voulons nous placer devant toi, chercher ta présence. Nous avons besoin de toi, de ton esprit qui nous permet de te dire « Abba, Père, Papa ». Alors que nous voulons te rendre un culte, chanter, écouter ta parole tous ensemble, ouvre nos cœurs, nos esprits, à ton amour, ta présence, et permets-nous d'avancer à ta suite. Fortifie ton Église. Amen. Alors, continue avec un temps de louange. Merci à l'équipe.
Bonjour à tout un chacun, chacune. Quelle joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Est-ce que nous voulons que le Seigneur règne en nous? Sommes-nous prêts à lui laisser toute la place, à mettre Jésus au centre? Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort par son sacrifice sur la croix. Alléluia. Alléluia. Thank you. Alléluia. Puisque nous sommes en famille, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. En cette période de Pentecôte, nous voulons le louer pour être venu jusqu'à nous, pour nous avoir envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. Cela résonne particulièrement fort pour moi en ce moment, car je suis en train de perdre mon père, terrassé par un cancer en quelques mois. Il est déjà en fin de vie. Alors peut-être que moi dans la salle, il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin du Consolateur. Mais le Rédempteur ou le Sauveur, Jésus-Christ, vit. Il est mort sur la croix et ressuscité pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous donner la vie éternelle à ses côtés. À lui, toute la gloire, béni soit le Rédempteur du monde. Du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix, toi la nouvelle mission. Merci. Sous son regard, sauvé par sa grâce. Quelle espérance nous avons en Jésus-Christ. Mais pour avoir la chance de vivre cela, il faut ouvrir son cœur au Seigneur, comme vous l'avez certainement beaucoup déjà fait. Accepter d'être transformé, et on veut proclamer les paroles du prochain chant. Échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi à ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Prends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Échange mon cœur. Contre
Je vous invite à prier encore pour les enfants et pour la suite du culte. Seigneur, merci parce que tu veux changer nos cœurs à chacun, parce qu'il y a du travail. Que tu fasses ce travail dans nos vies. Et maintenant, nous te remettons les enfants pour la suite du culte dans leur groupe. Et que tu conduises leur moniteur, que tu conduises chaque enfant dans son développement. Merci parce que tu les aimes et tu prends soin d'eux et tu te réjouis de leur présence, de leur participation et de tout ce qu'ils vivent. Et que tu continues aussi à travailler nos cœurs à nous, que tu nous rendes sensibles à ta parole et à ton esprit. Que tu bénisses Thierry aussi qui nous apportera la prédication. Amen.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On s'hydrate avant de commencer. Le désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la Pentecôte. Et puis en réfléchissant, en me préparant un petit peu pour ce message, cette prédication, je me suis dit que j'allais aborder ce jour, ce thème, d'une manière un petit peu différente. Alors, peut-être qu'elle ne le sera pas pour vous, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà bien ce que je vais dire aujourd'hui, ça sera peut-être un rappel. Mais voilà, j'avais envie de faire avec vous un voyage dans l'histoire, l'histoire de l'humanité. De retracer depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a mis en œuvre pour désirer pour habiter au milieu de son peuple. Donc on va faire un long voyage en 20 minutes, donc pardonnez-moi pour les nombreux raccourcis que je vais prendre, ça va aller un peu vite. En me préparant, je me suis dit, oulala, il y aurait matière à faire plusieurs messages. Mais voilà, j'espère pas vous perdre en route. Accrochez-vous, on y va. Dans le livre de la Genèse, tu peux mettre la slide suivante, nous trouvons quelque chose que nous trouvons nulle part ailleurs. Nous trouvons le monde avant le péché. C'est quand même quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que cette période, en tout cas dans nos Bibles, hein, elle ne dure pas longtemps. Moi, j'ai regardé dans ma Bible d'études là, que j'ai utilisée, j'ai 2143 pages. Et puis à la quatrième page, le péché arrive. Donc, c'est un petit peu frustrant hein, quand on se dit, punaise, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de pages de ce temps où tout allait bien finalement. Mais voilà, l'histoire qui nous est racontée est comme ça, très vite, le péché est entré dans le monde. Dans le Jardin d'Éden, qui est considéré par certains spécialistes comme l'endroit où le ciel rencontre la terre, le ciel qui est l'endroit où Dieu habite avec tous les êtres spirituels, et puis la terre qui est l'endroit où les humains habitent, cet endroit où les deux voilà, se rencontrent. Au début du livre, Dieu crée l'univers, et puis il donne ses instructions à Adam, à Ève, et il semble leur parler comme je vous parle. Tout a l'air très simple, très naturel. Ils se baladent dans le jardin et puis ils ne sont pas surpris que Dieu soit là, présent et qu'il leur parle simplement. Mais voilà qu'arrive un autre être spirituel qui nous est décrit comme un serpent qui lui aussi parle très naturellement à Adam et Ève et leur tend un piège. Un piège dans lequel ils vont tomber assez facilement et je ne dis pas que j'aurais fait mieux. Et c'est là que les conséquences arrivent. Très tôt dans l'histoire qu'il nous a racontée. Et j'aimerais en noter deux en particulier. La première, c'est qu'Adam et Ève se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. Hein, très vite, il y a quelque chose qui change. C'est normal, Dieu leur parle, et puis là, tout à coup, ils se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. Et on peut lire ça dans Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu. Quelque chose n'est pas normal. Parmi les arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Étonnant, hein ? « Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Là où la nudité d'Adam et Ève ne posait pas de problème, tout à coup, ça pose problème. Quelque chose a changé et ils ont peur de Dieu. Puis la deuxième chose que j'aimerais relever, c'est qu'ils sont chassés de ce lieu où la terre et le ciel se rencontrent. Et on peut lire ça un petit peu plus loin. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Donc là, deux mauvaises nouvelles, coup sur coup. Et ça passe très vite hein, dans nos Bibles, ce passage, voilà, il y a peu de choses, mais j'imagine que ça a dû être déchirant pour Dieu. Il a dû quelque part chasser ses propres enfants de la maison où ils habitaient. Pour moi, c'était une sorte de mise en quarantaine que Dieu a dû faire malgré lui pour protéger ce lieu qui était saint. Et on peut imaginer que son cœur a vraiment être déchiré à ce moment-là. Mais Dieu ne se laisse pas aller. Dieu ne se laisse pas aller car cette situation n'est pas satisfaisante pour lui. Ce n'est pas ce qu'il voulait et ce n'est toujours pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il avait imaginé en créant l'humanité. Il désirait être en relation permanente avec sa création. Et puis là, ce n'est plus possible. À peine le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, qu'il met un plan de rédemption en marche. Le chemin sera long et sinueux, mais Dieu tiendra bon et il sera fidèle malgré l'infidélité des hommes. Et pour mettre son plan en exécution, il va commencer par un individu, Abraham. Et c'est souvent le cas hein, dans cette histoire de l'humanité. Dieu va travailler avec des hommes et des femmes. Et aujourd'hui encore, il cherche des hommes et des femmes, tels que nous, fidèles, qui lui font confiance pour agir dans l'humanité. Genèse 12:1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie, sans savoir où il va. Donc déjà là, il faut faire confiance, hein. Ça commence déjà. Et puis, Dieu fait alliance avec Abraham Et déjà là, nous comprenons que Dieu voit loin, très loin, hein, car toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il lui dit. Et puis voilà, là on va avancer vite, hein, Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, Jacob engendre 12 fils qui deviendront les 12 tribus d'Israël. À cause de la famine, cette grande famille émigre en Égypte, où il y a à manger, et puis ils s'y installent. Ils sont une septantaine à leur arrivée, et 430 ans plus tard, c'est un peuple qui sort d'Égypte. On n'est pas sûr du nombre, mais voilà, on sait en tout cas que c'était un peuple nombreux qui sort de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, où Dieu les délivre des Égyptiens de manière miraculeuse. Et puis après 3 mois, ils arrivent au désert du Sinaï. Et là, ils campent au pied de la montagne. Dieu appelle Moïse du haut de la montagne, Moïse qui avait conduit le peuple hors de l'Égypte. Et j'aimerais vous lire quelques extraits de ce passage que nous trouvons dans Exode 19. Et merci de noter la différence entre le récit de la Genèse et ce récit, la relation des hommes avec Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches, bête ou homme. » Il n'en restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Et puis un petit peu plus loin, verset 16. « Le troisième jour, au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du cor retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. » Quel contraste, n'est-ce pas? Quel contraste entre le jardin d'Éden et ce passage. Quelle tristesse aussi. En lisant ce genre de texte, on peut être tenté de dire que Dieu est bien trop sévère. Comment peut-il accepter que des gens meurent simplement en s'approchant de lui? Pour moi, la sainteté de Dieu, c'est un peu comme le soleil. Alors, ça reste une comparaison qui marche à moitié. Mais quand même, elle peut nous expliquer peut-être un peu de cette sainteté. En fait, le Soleil, à 150 millions de kilomètres, comme nous sommes maintenant, hein, c'est la distance qui nous sépare du Soleil, ça va. On aime sa chaleur, parfois c'est un peu trop chaud, hein, suivant les jours, mais c'est raisonnable, on arrive à vivre avec. Par contre, approchez-vous un peu trop près et vous êtes pulvérisé, n'est-ce pas? Et on peut se plaindre, on peut dire, ben, c'est pas juste, le Soleil est bien trop chaud. Mais c'est sa nature, le soleil est comme ça. À nous de garder nos distances. Et pour moi, la sainteté de Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu est saint, c'est sa nature, c'est qui il est. Il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas devenir moins saint pour que nous puissions nous approcher de lui. Et c'est d'après moi ce qui se passe dans ce passage. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Il donne ses conditions et Israël accepte, sans trop réfléchir d'ailleurs. Comme on le sait, plus tard, ils vont bien souvent briser cette alliance. Et puis au chapitre 25 du livre de l'Exode, nous pouvons lire ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. » C'est ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Le peuple construit la tente de la rencontre selon les instructions données. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 40, verset 34, nous pouvons lire « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc là, nous avons un lieu où à nouveau le ciel et la terre se rencontrent. C'est très limité, hein ? Je ne sais pas si peut-être qu'on peut remettre l'image d'avant. La tente de la rencontre, il y avait trois secteurs, on peut dire, hein. Il y avait l'entrée, le parvis, puis il y avait le lieu saint, et ensuite il y avait le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile, une sorte de grand rideau épais, et seule une personne pouvait aller dans le lieu très saint. Il y avait toutes sortes de règles qui étaient liées à ça. Voilà, c'était possible, mais c'était compliqué. Et puis, par la suite, Dieu enseigne ce peuple pour qu'il devienne une nation, ce peuple qui était un peuple esclave. Il ne faut pas l'oublier, ils étaient nombreux, mais ils avaient vécu en esclavage pendant très longtemps en Égypte. Ils n'étaient pas organisés comme une nation. Donc Dieu les enseigne, il leur donne des règles concernant l'agriculture, le culte, la politique, la santé. Puis, sous la conduite de Josué, le peuple prend possession du territoire que Dieu lui a promis, plus ou moins. Mais bon, ça, ce serait un autre message. Et puis, Dieu est à la tête du peuple, les choses se passent relativement bien, mais le peuple regarde un petit peu aux nations alentour et puis ils se disent, mais c'est pas juste, ils ont tous un roi et puis nous, on n'en a pas. Donc, ils demandent un roi. Dieu essaye de les en dissuader un petit peu en leur disant, ah, c'est pas une super idée, mais ils insistent, ils disent, oui, non, on a bien réfléchi, on veut un roi. Et donc, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et puis, c'est Saül qui devient le premier roi d'Israël. Saül qui commence très bien et puis qui finit moins bien. Petit à petit, il prend les choses en main, il fait plus confiance en Dieu. Et là, Dieu, il se dit, ben, ça ne va pas aller, il faut que je choisisse un nouveau roi. Et c'est David, qui est bien connu pour tous les psaumes qu'il a écrits, qui est choisi comme roi pour succéder à Saül. Et David, malgré ses erreurs, dont certaines auront de lourdes conséquences, est un roi selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu et qui reste en relation avec lui dans les bons et les mauvais moments. Il remporte beaucoup de batailles et Israël n'est plus menacé de tous côtés comme c'était le cas au début de son histoire. Et puis à un moment donné, il désire construire une maison pour Dieu. On peut lire ça dans 2 Samuel 7 au verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Voici donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » C'était toujours la même tente de la rencontre. Nathan répondit au roi, sans trop réfléchir, on le verra plus tard, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur car l'Éternel est avec toi. » Et en fait, si vous connaissez l'histoire, on sait que Nathan, il retourne à la maison. Je ne sais plus s'il prend un temps de prière. En tout cas, Dieu lui parle et lui dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que tu retournes vers David, lui dire que ce n'est pas lui qui va construire ma maison. J'aime bien son projet, c'est OK, mais c'est son fils Salomon qui fera ça. Donc David va préparer tout le matériel nécessaire à la construction de cette maison, du temple, mais c'est Salomon qui le construira. Le règne de Salomon est un petit peu l'apogée de l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament en tout cas. Salomon domine sur tous les royaumes alentours et il y a la paix de toutes parts. Et puis la quatrième année de son règne, c'est la construction du temple qui commence, 480 ans après la sortie d'Égypte. La construction dure 7 ans et puis il y a ensuite la confection du matériel pour le temple. Une fois le temple construit, l'arche de l'Alliance qui était dans la tente est transférée et mise dans le temple. Et à nouveau, la présence de Dieu envahit les lieux. On peut lire ça dans 1 Roi au chapitre 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et voilà, nous avons maintenant le temple, le troisième lieu où les cieux et la terre se rejoignent. Mais encore une fois, ça reste limité. Il y a toujours les sacrifices, il y a toujours ces limitations dans le fait qu'il y a une personne qui peut aller dans le lieu saint. Et ça restait très dangereux pour cette personne, hein. En 2014, j'ai eu le privilège de faire une formation à l'étude inductive de la Bible avec Jeunesse en Mission en France. C'est une formation assez courte, assez condensée de 3 mois. Et durant ces 3 mois, on lisait la Bible dans son entier, donc on devait la lire assez rapidement. C'était assez intense. Et ce qui était très chouette dans cette expérience, c'est que j'ai tout à coup pu voir une sorte de vue d'ensemble de la Bible que j'avais jamais eue avant en lisant des petits passages par-ci par-là. Donc je vous le conseille de le faire, c'est très enrichissant. Et je me souviens être arrivé à un passage en particulier qui m'a fait pleurer. C'est un passage qu'on trouve dans Ézéchiel 10. Est-ce que quelqu'un sait de quoi parle ce passage ? Je fais le malin, mais j'aurais pas su, hein, si j'avais... En fait, ce passage parle de la gloire, de la présence de Dieu qui quitte le temple. Et en fait, ça m'a fait pleurer ce passage parce que, ayant lu tout l'Ancien Testament rapidement, j'avais vu à quel point Dieu a essayé et essayé et essayé de faire en sorte que ça marche avec son peuple. J'ai vu son désir d'habiter au milieu de son peuple. J'ai vu son désir d'avoir une alliance avec son peuple. J'ai vu le nombre de fois où il a dû pardonner, où il a dû être patient, où il a dû être lent à la colère. Parfois, quand on lit l'Ancien Testament, par-ci, par-là, on peut avoir l'impression que c'est un Dieu dur qu'on y rencontre, avec des jugements, avec des lois, avec toutes sortes de choses compliquées. Mais vraiment, là, j'ai vu Dieu qui a essayé, vraiment, beaucoup de fois. Et puis là, il y a ce moment déchirant. C'est difficile de transmettre ce que j'ai vécu et ce que je revis maintenant, ce que Dieu a vécu. Quand il a dû se résoudre à quitter le temple. Le peuple d'Israël n'a pas tenu sa part du deal, encore une fois. L'alliance avec Dieu n'était possible que si les deux parties la respectaient. Israël est attaqué par des empires successifs, le peuple est déporté et la présence de Dieu quitte le temple. Et puis après ça, il y a 400 ans de silence. Alors ces 400 ans de silence, c'est, voilà, il n'y a plus d'écrits en fait entre la fin de l'Ancien Testament et puis les premiers écrits que nous avons pour le Nouveau Testament. 400 ans de silence, c'est long, hein? Mais de génération en génération, l'espoir demeure, comme tenu par un fil. Il y a des histoires de prophéties, un Messie, un libérateur viendra. Et puis il y a aussi cette prophétie dans le livre de Joël, Joël 3:1, qui dit que par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Dur à croire, hein, pour le peuple d'Israël, déporté. Dieu n'abandonne pas. Il est patient, il persévère, malgré le cœur des hommes, car il nous aime. Et il désire rétablir ce qui a été brisé dans le jardin d'Éden. Jésus, le Fils de Dieu, vient nous rejoindre dans notre humanité. Il restaure, il guérit, il nous fait connaître Dieu, le Père, plein de grâce et de compassion pour ses enfants. Et puis après 3 ans de ministère, il est crucifié, mis à mort par ceux qui pensaient connaître Dieu. Mais alors qu'il meurt, quelque chose se passe dans le temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Et après 3 jours, il ressuscite. Et à nouveau, auprès de ses disciples, il leur donne ses dernières instructions avant de rejoindre son Père dans le ciel. Luc 24:19. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Les disciples se réunissent et attendent. Ils attendent ce qui a été promis. Et puis, au jour de la Pentecôte, quelque chose se passe. Et nous lisons ça dans Acte 2, au verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis, tous ensemble au même endroit. Tout à coup, Un bruit vient du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Il y a eu le jardin, lieu où les cieux et la terre se touchent. Puis il y a eu la tente de la rencontre, lieu où les cieux et la terre se touchent. Puis le temple, et maintenant il y a nos corps. 1 Corinthiens 6, 19. L'apôtre Paul nous dit, « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. À nouveau, le lieu où le ciel et la terre se touchent. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Genèse 17, 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Exode 29. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Lévitique 26. « Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ézéchiel 14. « Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. » Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Zacharie 8, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Jérémie 20, 32, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Encore et encore et encore, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. La semaine passée, Philippe nous a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Écoutons ce qu'il a écrit au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça vous rappelle quelque chose ? On a déjà bien avancé dans cette histoire, hein, l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu dans l'humanité. Mais ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit est là, disponible pour chacun de nous, mais il y a encore des choses à venir. Tout n'est pas encore totalement restauré. Nous ne vivons pas encore ce qui se vivait dans le jardin. Mais la Nouvelle Jérusalem, ce qui vient, ses promesses sont encore là devant nous. Le voile est déchiré. Plus besoin de sacrifices, comme à l'époque de la tente ou du temple. En Jésus, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et le Saint-Esprit est disponible, il désire habiter en nous. Ce jour est un jour de fête. Et c'est la pensée que j'aimerais vous laisser ce matin, pour le reste de ce culte. C'est un jour de fête, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de l'Évangile, cette bonne nouvelle que nous annonce le Nouveau Testament, les évangiles en particulier. Il y a eu, bien sûr, la mort, la résurrection de Jésus, il y a eu sa venue, mais il y a eu aussi la venue du Saint-Esprit, qui est l'accomplissement de ce plan de rédemption, de ce Dieu qui essaye de restaurer cette relation depuis tellement longtemps. Alors aujourd'hui, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse louer Dieu, être dans la reconnaissance pour le Saint-Esprit, pour notre corps, qui est à nouveau devenu ce lieu où le ciel rencontre la terre et où Dieu peut nous rencontrer. Amen.
Je vous invite à continuer avec un temps de prière. Là où les cieux et la terre se touchent une nouvelle fois, en nous, dans l'Église, qu'on puisse se placer devant Dieu et vous pouvez prier de manière libre. Là, je terminerai ce temps après.
Seigneur, quelle grâce, quel privilège de vivre aujourd'hui, libre de tout sacrifice et libre de venir te rencontrer, de te présenter devant toi et d'être habité par le Saint-Esprit. Seigneur, quel privilège. Merci pour toute cette histoire. Merci pour ta patience, ta persévérance et pour l'accomplissement de tes promesses dont nous bénéficions aujourd'hui. Amen.
Merci Seigneur pour ta promesse. Je vous envoierai le Consolateur. Le Seigneur, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Viens, Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de toi. Amen.
Merci Seigneur pour la présence parmi nous. Merci, comme on a dit là, pour ta grande patience, Seigneur. Et puis merci Seigneur parce que tu auras encore de la patience pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, et toutes les familles de la terre. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur, parce que malgré le péché, tu as sans cesse voulu te rapprocher de nous. Et nous te disons merci pour ta grâce, ton pardon, ton amour, la force que tu nous renouvelles, tu nous rappelles. Et merci Seigneur Jésus, lorsque tu as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Merci Seigneur, enseigne-nous comment l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, peut réellement être en nous et abonder en nouveauté de vie pour chacun de nous, dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Amen.
Éternel, merci pour ta fidélité, merci d'avoir de la suite dans les idées, merci pour tes promesses accomplies. Merci pour le don de l'Esprit que nous fêtons ce jour, pour l'Église que tu as fait naître. Merci de faire de nos corps si faibles, fragiles, imparfaits, mortels, le temple de Dieu. Ça me paraît incroyable. Et pourtant, tu as décidé de faire de nos vies le temple où tu viens habiter. Seigneur, rends-nous conscients de ça et aide-nous à être au moins tant soit peu à la hauteur. Aide-nous à manifester les fruits de ton esprit dans nos vies. Et merci pour ta bonté qui ne faiblit pas. Amen.
Amen.
Remercions Seigneur pour cette patience qui émane de toi à notre endroit, pour cette persévérance dans cet amour parfait et incommensurable pour chacun de nous. Et merci parce que en ce jour nous pouvons nous réjouir de ce que le ciel rencontre la terre à nouveau, au niveau de ton Église, des membres de l'Église. Dans nos cœurs, aide-nous, aide-moi Seigneur. À te recevoir le mieux possible. Amen.
Merci Seigneur, parce que aujourd'hui encore, tu dis, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et nous voulons nous mettre à ton service, à ton écoute, à ta disposition. Merci pour ton esprit qui se manifeste plein de manières différentes dans nos vies et dans les talents que tu nous donnes. Aide-nous à les mettre à ton service. Amen. Dans la Bible, il y a des sacrifices, comme dans la plupart des religions. Il y avait des règles assez claires sur le pourquoi, le comment, le quand. Et l'agneau, l'agneau était une offrande, un sacrifice courant. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui qui avait été annoncé par les prophètes, celui dont Jean parle, Jean-Baptiste. Jésus est justement cet agneau, innocent, sans tache, sans défaut, sans péché. Par ce sacrifice, fait une fois pour toutes, nous pouvons être unis à Dieu, comme dans un couple, l'époux et l'épouse qui s'engagent fidèlement. Alors avant de partager ce repas de scène, je vous invite à chanter ce chant qui dit « À l'agneau de Dieu ». Nous allons partager ce pain, ce vin, comme Jésus nous invite à le faire, pour nous rappeler son sacrifice, pour renouveler notre union en lui, notre union entre nous. Jésus partage le repas de la Pâque avec ses disciples. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez ». Manger, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe, Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Seigneur, merci parce que tu as tout donné pour nous. Tu t'es dépouillé de tout pour mourir comme un agneau, chargé de nos manquements, de nos fautes. Par ton sacrifice, tu nous montres combien tu nous aimes et tu nous permets de retrouver ce lieu où les cieux et la terre se touchent. Alors que tu viennes travailler nos cœurs, nos esprits, nos corps, pour que nous puissions avancer avec toi, nous puissions nous rapprocher de toi en étant pardonnés. Amen. Alors nous allons distribuer le pain, les plateaux avec les petits gobelets. Au centre, c'est du jus de raisin. Et si vous désirez la coupe, il faudra simplement faire signe et on aura besoin de 3 personnes pour nous aider pendant cette distribution. Pendant ce temps-là, vous êtes libre de prier ou d'intérioriser ce temps.
Thank you.
Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que tu cherches un peuple, mais tu cherches des hommes et des femmes, et tu es venu nous donner ta vie pour nous. Merci parce que bientôt nous pourrons partager ce repas, ce pain, ce vin, ce temps parfait où les cieux et la terre se toucheront de manière parfaite. Nous pourrons vivre cela bientôt avec toi. Amen. Alors nous allons continuer encore avec un temps d'offrande que je vous invite à vivre comme un temps de louange. On fait des dons, on fait des cadeaux, des dons en temps, en talent, en matériel et en espèces. C'est uniquement ainsi que l'Église tourne. Il n'y a aucune obligation de participation, même s'il existe quand même des recommandations selon les contextes dans la Bible. Et je vous invite à louer Dieu et à vous engager à suivre Jésus par ce chant aussi pendant qu'on ramasse l'offrande. Dans certaines églises, on le fait en dansant, en se rendant devant la scène les uns après les autres. Alors ici, vous pouvez danser si vous voulez, mais on se contentera de passer avec les sachets. Alors je vous invite à chanter « Jésus, je te suivrai ».
Quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai.
Seigneur, je veux te suivre jour après jour. C'est pas toujours facile et des fois on s'arrête. Merci de pouvoir repartir à ta suite, de pouvoir se relever parce que tu nous tends la main. Et merci pour cet argent qu'on peut mettre de côté pour toi et qui puisse faire avancer ton royaume ici dans l'église, au loin, partout sur terre. Amen. Merci beaucoup à chacun. Merci aussi à aux cathés qui participent de manière active. Et Je laisse terminer ce culte avec la bénédiction.
Voilà, on l'a vu, hein, Dieu, au travers de l'histoire, a utilisé des hommes, des femmes qui lui ont fait confiance pour que son plan puisse s'accomplir. Et je prie, Seigneur, que nous puissions être de tels hommes, de telles femmes, jeunes et vieux, qui te faisons confiance et au travers duquel tu peux agir. Seigneur, quel privilège de te connaître, quel privilège d'avoir ton Esprit Saint en nous. Mais Seigneur, autour de nous, il y a tant de gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore été réconciliés avec toi, ramenés à la maison. Seigneur, que notre cœur puisse déborder aujourd'hui, cette semaine, et que nos voisins, nos collègues de travail puissent être comme contaminés par notre joie de vivre, par la paix que tu donnes, par ton amour, Seigneur, et qu'ils puissent apprendre à te connaître. Je bénis chacun d'entre nous en ton nom. Amen. Bon dimanche.